Actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Magali Lagrange en parlait à l'instant, cette tournée africaine du président indien qui se termine ces jours-ci par la Namibie. Il s'est rendu d'abord au Ghana, puis en Côte d'Ivoire. L'enjeu de ce voyage est évidemment économique, car l'Inde, comme la Chine, est à la recherche de matières premières pour son développement. Mais cette tournée, c'est surtout l'occasion pour l'Inde de tenter de rattraper son retard en Afrique face à son grand rival chinois. On va s'intéresser ce matin justement à l'intérêt des pays émergents pour l'Afrique. On voit que la Chine, mais aussi l'Inde, n'hésite pas à dérouler le tapis rouge aux chefs d'État africains en organisant des sommets, en débloquant des milliards de dollars de prêts ou encore en délivrant des dizaines de milliers de bourses aux étudiants africains. Alors vous qui êtes justement en Afrique, dites-nous si vous constatez la percée de ces deux géants asiatiques dans votre pays. Quel regard vous portez justement sur cette concurrence que se livrent l'Inde et la Chine? Est-ce que cette rivalité bénéficie au continent africain? Peut-elle contribuer finalement à son développement? Nous en parlons ensemble durant les 20 prochaines minutes. Vous continuez évidemment à composer le 33 9 693 693 70. Vous êtes en France, vous composez le 09 693 693 70 et je lirai, c'est promis évidemment, quelques-unes de vos réactions postées sur Facebook. On commence avec vous, Amadou. Bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Dakar, au Sénégal, et vous avez un regard particulièrement critique, vous, sur la percée de la Chine et de l'Inde en Afrique.
Oui, tout à fait. En fait, je pense qu'on n'est pas en train d'en profiter réellement en Afrique, parce que ce qui se passe, c'est que on leur vend nos matières premières, qu'ils vont transformer. Et pour les projets de d'infrastructure, ce qu'on remarque en général, c'est que il n'y a pas de transfert de compétences. Donc ils viennent, ils construisent avec leur technologie, avec leurs ingénieurs, avec leurs ouvriers, et puis ils partent.
Oui, enfin, alors vous dites, et vous n'avez pas tort, effectivement, c'est vrai que beaucoup reprochent, notamment à la Chine, de venir en Afrique, de construire des infrastructures, mais sans faire appel à la main-d'œuvre locale. Bien souvent, les entreprises chinoises viennent avec leurs propres salariés, donc eux chinois, donc effectivement ça ne crée pas des emplois localement, mais en même temps ces infrastructures chinoises, elles sont quand même bénéfiques pour les pays en question, notamment peut-être pour le Sénégal, puisque ces infrastructures permettent d'une certaine façon de désenclaver certaines régions, donc c'est important malgré tout.
Absolument, c'est important, mais ce qui est plus important encore pour nous en Afrique, c'est qu'on apprenne, c'est que on accède à la technologie qui nous permet d'avancer. Aujourd'hui, je pense que ce qu'on devrait privilégier dans la coopération, c'est qu'il y ait des joint ventures avec des entreprises africaines, sénégalaises, qui vont, par cette occasion-là, acquérir de nouvelles technologies et pouvoir grandir et pouvoir demain réaliser les infrastructures que nous voulons mettre en place. Oui. Mais si on se contente seulement d'avoir l'infrastructure, ben on l'aura l'autoroute, on aura les bâtiments, etc., mais on n'aura pas la technologie et ça ne permet pas d'avancer. Donc, pour moi, c'est vraiment...
Et Amadou, est-ce que vous diriez, comme Nicolas sur Facebook, que cette rivalité n'a finalement aucune retombée si ce n'est le pillage du continent africain? Il nous dit, le Nigeria, qui est le premier producteur de pétrole brut, est obligé d'importer du pétrole raffiné, et les meilleurs chocolats du monde viennent de Suisse, alors qu'aucun arbre de café cacao ne pousse en Suisse. Donc ce que demande cet auditeur, c'est effectivement ce transfert de technologie des Chinois et des Indiens pour permettre finalement, comme il dit, à nos ingénieurs de travailler correctement.
Absolument, c'est absolument cela. Et je pense que ça va être encore un gâchis. Nous avons déjà raté le coche dans l'histoire, mais voilà encore la rater cette fois-ci. Et aujourd'hui, tout le monde veut conquérir l'Afrique. Et nous devons en profiter. Nous devons faire en sorte que nos intérêts soient préservés, qu'il y ait des partenariats.
Ah, on a perdu Amadou, quelque part entre Paris et Dakar. En tout cas, on a compris l'essentiel de votre réaction. Merci de nous avoir appelé, 8h44, justement au Sénégal. Loïc, soyez le bienvenu.
Merci, Juan Gomez.
Vous êtes à Accra, vous êtes au Ghana. Vous partagez l'analyse d'Amadou, vous êtes également critique ou pas?
Je suis critique dans la mesure où il n'y a aucune solidité dans ce genre de relation-là. Comme l'a dit Amadou tout à l'heure, on voit des infrastructures, mais après, moi je dirais que comme le dit un proverbe chinois, au lieu de donner du poisson tout le temps à ton fils, apprends-lui à pêcher. Donc, c'est à ce niveau-là où ces relations-là sont très fragilisées, sont très fragiles, pardon, selon moi.
Et en même temps, on parle d'infrastructure. J'ai sous les yeux le communiqué du ministère des Affaires étrangères chinois lors du dernier sommet Afrique-Chine qui s'est tenu début décembre. La Chine a construit sur le continent africain, c'est impressionnant, écoutez bien, plus de 5600 km de chemin de fer, 4500 km d'autoroute, 18 ponts, 14 aéroports, sans compter les dizaines de centrales électriques, les installations sportives, des centaines d'écoles, des ports, bref, la liste est quand même impressionnante.
Elle est impressionnante et c'est bien d'entendre ce genre de chiffres, mais en fait, après, il faudrait que ces chiffres-là, ces infrastructures-là et tout ce qu'ils ont construit soient solides, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez, moi je me rappelle, dans mon pays d'origine, ils ont construit l'Assemblée nationale et le Sénat, mais je vous dis, monsieur Rouen, si vous vous mettez devant ces bâtisses-là, vous verrez qu'il y a des fissures, vous verrez que ce n'est pas du solide du tout. C'est un peu du frappe à l'œil. En fait, on est en train de nous faire un petit spectacle. Moi, je n'ai rien contre les relations entre la Chine et les pays africains, mais encore faudrait-il que cela soit plus solide. Faudrait-il que ces relations nous permettent à nous Africains pouvoir ne plus dépendre d'eux à 80, à 90%.
Ouais. Vous avez l'impression, Loïc, à Accra, que le nombre de commerçants chinois est de plus en plus important? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus d'Indiens également qui s'installent dans la capitale ghanéenne?
Ben, y a plus. Les Indiens sont un peu plus employeurs. Ce que construisent les Indiens ici, ils emploient beaucoup plus les locaux. Il y a beaucoup plus de Ghanéens qui travaillent dans des structures construites et des supermarchés et tout cela construit par des Indiens que ce que font les Chinois ici. Les Chinois, pour les voir partout, on les voit partout. Mais après, ce qu'ils font de manière concrète, donc c'est comme vous avez cité tout à l'heure, c'est des stades,
une ambassade, vous disiez tout à l'heure l'Assemblée nationale dans votre pays. Voilà, ce sont des infrastructures malgré tout nécessaires pour le bon fonctionnement d'un État. Merci Loïc de nous avoir appelé. Elvis sur Facebook nous dit que cette rivalité Inde-Chine en Afrique est de bon augure pour les pays africains. Car là où il y a concurrence, il y a toujours émulation et création d'opportunités. Et vous n'êtes pas sans savoir, nous dit Elvis, que lors de ses visites, des investisseurs viennent tâter le terrain. Et effectivement, c'est vrai qu'une délégation d'hommes d'affaires accompagne ces jours-ci le président indien. 33 9 693 693 70. Qui avons-nous? Drissa, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Abidjan.
Oui, je suis à Abidjan.
Et vous dites, les investisseurs indiens et chinois sont les bienvenus, vous tendez les bras, vous.
Oui, bien sûr. J'ai dit la présence de l'Inde en Côte d'Ivoire répond à la dynamique que la Côte d'Ivoire doit diversifier sa coopération. Parce que au-delà des objectifs que nous avons, alors nous avons un enjeu, c'est que la Côte d'Ivoire devienne un pays émergent à l'horizon 2020. À ce titre, donc il est important pour nous que la Côte d'Ivoire multiplie et diversifie ses coopérations.
Je vais être un peu caricatural et un peu provocateur. Est-ce que vous pensez qu'en étant avec l'Inde que l'Inde soit le premier importateur des noix de cajou ivoiriennes, est-ce que vous pensez qu'avec les noix de cajou, la Côte d'Ivoire peut devenir émergent, un pays émergent?
Oui, moi je pense que la Côte d'Ivoire peut devenir un pays émergent parce que vous savez que nous avons vu la construction de la Côte d'Ivoire avec le café et le cacao un peu dans le sud de la Côte d'Ivoire. Et la plante aujourd'hui industrielle que nous avons au niveau nord-est de la Côte d'Ivoire, vous savez que c'est la noix d'acajou.
Oui.
Et le seul pays importateur c'est l'Inde justement. C'est pourquoi pour moi c'est une complémentarité. Que l'Inde vienne en plus de la Chine qui est déjà très très présente en Côte d'Ivoire.
Mais alors c'est notamment vrai que la quasi-totalité de la noix de cajou ivoirienne est exportée en Inde. Mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux de transformer la noix de cajou en Côte d'Ivoire et de l'exporter ensuite?
Bien sûr, c'est ce que j'en venais, parce que la valeur ajoutée que l'Inde pourrait faire en plus de la Chine, c'est-à-dire que ça il faut qu'on le notifie, c'est la transformation donc de tous ces produits en Côte d'Ivoire. eux utiliser donc ce que j'appelle le transfert des compétences en Côte d'Ivoire. Comme on voit la France, la coopération avec la France, on a vu le troisième pont qui est où Bouygues a carrément utilisé des PME ivoiriennes pour faire le transfert de compétences.
Oui, vous parlez donc, du troisième pont à Abidjan, hein.
Oui, le troisième pont à Abidjan, on a vu Bouygues, j'ai personnellement suivi, j'ai vu que ce sont des entreprises ivoiriennes avec qui l'entreprise Bouygues a sous-traité. Et donc, je pense que l'Inde aujourd'hui, donc la valeur ajoutée sera de construire des usines ici pour la transformation de l'Anacad et d'utiliser la main d'œuvre ivoirienne. D'ailleurs, le président de la République, je sais que sur le barrage de Soubré, un des barrages du pays, je sais que le président de la République a exigé dans le contrat avec la Chine, avec les Chinois, que la main d'œuvre utilisée soit ivoirienne et que les voilà.
Ouais, non, mais c'est bien si de plus en plus maintenant les pays africains parviennent à s'imposer au moment de la signature de contrat en obligeant justement les entrepreneurs chinois à ce qu'il y ait une majorité de salariés locaux dans la construction de ces infrastructures. Effectivement, c'est un bon point parce que très souvent, nous dans cette émission, à chaque fois que nous parlons de ces partenariats Chine-Afrique ou Inde-Afrique, la majorité des réactions sont assez négatives puisque ces partenariats ne permettent pas de créer des emplois sur le continent africain. Merci Drissa de ce témoignage. Vous êtes nombreux d'ailleurs à aller dans ce sens. Kaba nous dit l'Afrique a beaucoup à gagner dans ce rapprochement avec l'Inde, dans la mesure où elle peut exiger un transfert de technologie, ce que la Chine n'a jamais fait en 50 ans de collaboration. Jean-Pierre, vous nous appelez de Kinshasa. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Juan.
Alors vous, vous êtes critique, hein. Vous dites que en République démocratique du Congo, les Indiens sont trop présents.
Oui, les Indiens sont très présents, contrairement aux Chinois, qui construisent des grandes infrastructures qui ne durent pas longtemps et qui sont surtout dans un secteur informel et qui sont dans une certaine concurrence contre le petit commerce. Les Indiens sont dans un secteur assez diversifié et stratégique et de grande proximité avec le peuple congolais. Ils sont dans le secteur des produits pharmaceutiques, c'est-à-dire les médicaments génériques. Ils sont dans les secteurs de grande distribution, ils sont dans les secteurs hospitaliers. Par exemple, l'hôpital du centenaire, c'est eux qui tiennent ça. Ils sont dans le secteur bancaire avec une des plus grandes banques de la République, Eurobank. Et ils sont dans le secteur de cosmétiques avec Martavco et beaucoup d'autres usines. Alors,
ils sont très présents au point que vous disiez au Standard, je ne sais pas si vous allez tenir le même discours à l'antenne maintenant, vous disiez qu'ils ont quasiment mis sous tutelle l'économie congolaise.
Oui, les Indiens ont mis pratiquement sous coupe l'économie congolaise. Ils sont tellement diversifiés qu'ils sont dans tous les domaines, mais ils ont créé des emplois et ils paient le taxe et ils paient de salaire. Et ils sont vraiment dans ce qui est durable, contrairement aux Chinois. D'ailleurs, dernièrement, le patron des douanes congolaises, M. Deo Ruiz Maguera, qui est très sévère, a été élogé vis-à-vis d'eux, parce que ce sont des gens qui payent quand même leurs douanes, qui perdent leurs taxes. Non seulement ils créent des emplois durables, mais ils rapportent aussi à l'État congolais en termes de taxes, d'impôts, de redéfenses. Ainsi de suite.
Ouais, donc vous diriez que le partenariat Inde-Afrique est un partenariat gagnant, contrairement à la coopération sino-africaine. On va voir si Paul, qui nous appelle du Togo, partage cette analyse. Bonjour Paul.
Bonjour Monsieur Gomez.
Bienvenue, on vous écoute.
Alors, merci. Je veux dire tout simplement, au-delà de tout ce qui a été souligné, que nous attendons réellement de l'Inde un véritable transfert de technologie, ce qui nous permettra à terme d'avancer plus vite dans tous les domaines.
Mais excusez-moi, Paul, c'est un vœu formulé par beaucoup d'auditeurs, ce transfert de technologie. Comment obliger à l'Inde de transférer donc les technologies alors que la Chine ne le fait pas ? L'Inde peut dire, écoutez, demandez également aux Chinois de transférer la technologie.
Il n'y a pas que la Chine qui ne le fait pas, les Occidentaux aussi ne le font pas. Et c'est l'une des causes du retard excessif de l'Afrique. Alors si on veut que l'Afrique s'en sorte, il faut, nous aider en nous transférant les technologies. Deux, avant le transfert des technologies, il faut donner des bourses aux Africains qu'ils aillent dans ces pays se former à ces technologies nouvelles-là avant l'arrivée des machines et qu'ils reviennent au pays former d'autres Africains et qu'ainsi l'Afrique avance. Ça, c'est le premier point.
Vous savez que ces trois dernières années, 25 000 étudiants africains ont reçu des bourses pour aller étudier en Inde. Et en octobre dernier, ce nombre a doublé, passant donc à 50 000 étudiants, donc 50 000 bourses pour les cinq prochaines années à venir. Donc l'Inde, à ce niveau-là, fait des efforts.
Voilà, tout à fait. Nous saluons cet effort. En même temps, nous sommes regardants sur les conditions dans lesquelles ces étudiants sont traités. Et nous voulons demander aux responsables indiens de regarder ce problème et de le résoudre rapidement.
Vous faites référence aux attaques racistes. C'est vrai que les ressortissants africains sont fréquemment attaqués en Inde. On en a encore parlé dans cette émission et sur l'antenne des RFI il y a 15 jours. D'ailleurs, vous êtes nombreux là aussi sur Facebook. Patrick nous dit, avant de parler de commerce, le président indien doit promettre l'arrêt des sévices que subissent les Africains en terre indienne. Que ce président commence d'abord par gérer le racisme dans son pays, nous dit Christopher, avant de piétiner le sol africain. Comment peut-il oser venir en Afrique? Bertrand, que les Indiens respectent d'abord les Africains qui étudient sur leur sol. Il est intolérable que l'on traite les Africains comme des sous-hommes. Voilà, enfin, vous voyez un certain nombre de réactions qui vous rejoignent, Paul, sur la façon dont les Indiens perçoivent et traitent les Africains chez eux.
Voilà, moi je ne dis pas que l'Inde piétine les terres africaines. Je suis vigilant encore sur deux autres points, à savoir que l'Inde ne fait pas comme la Chine en rachetant massivement nos terres agricoles et en contraignant ce qu'a fait la Chine au début. Les populations autochtones africaines à devenir des locataires sur leurs propres terres ancestrales, d'une part, d'autre part, que l'aide apportée à nos États soit des aides ciblées et que l'Inde soit vigilante sur la bonne utilisation de cette aide-là et que cette aide-là ne se transforme pas à des aides apportées au gouvernement.
Bon, voilà qui est dit, Paul. Merci de nous avoir appelé. On va certainement terminer avec Youssouf. Il nous reste à peine 3 minutes. Bonjour Youssoufou. Youssoufou, me dit-on. J'ai écorché votre prénom. Bonjour Youssoufou.
Bonjour.
Vous nous appelez de Côte d'Ivoire. On vous écoute.
Tout à fait. Bon, mon avis à moi, je pense qu'il faut considérer cette histoire un peu comme la guerre froide. C'est-à-dire le bloc communiste et le bloc capitaliste. Il y a du bon et du mauvais, mais il faut que les deux pays qui viennent pour l'Afrique cherchent à séduire l'Afrique dans le bon sens. Cela veut dire quoi? Je ne reviens pas sur ce qui a été dit parce que c'est les mêmes choses que je pense. Vous voyez l'unanimité autour de la riposte qu'il y a. Mais il y a des bons points. Par exemple, à Abidjan, ce qui concerne l'accord de siège d'Exim Bank, ça permet de financer les entreprises. C'est pas mauvais.
Oui. Vous faites référence, Magali Lagrange en parlait tout à l'heure dans le journal, à cet accord qui permet donc l'installation d'une banque indienne d'import-export à Abidjan, cette Exim Bank of India. Et c'est une banque qui a été créée par le gouvernement indien pour justement aider les sociétés indiennes qui voudraient exporter et importer.
Ben voilà, c'est là que le vrai problème commence. Parce que si on vient pour s'installer en Côte d'Ivoire ou partout par ailleurs en Afrique, que seulement dans l'intérêt de l'Inde, c'est pas bon. Parce que, bon, écoutez, vous voyez par exemple, dernièrement, il y a eu 22 700 tonnes de riz frelaté qui est venu au Sénégal, d'origine indienne. Mais il n'y a pas que les Africains qui doivent consommer ces genres de choses-là. C'est pas bon. Je vous donne un autre exemple. Dans la région nord-est de la Côte d'Ivoire, à Bondoukou, où il y a un barrage qui existe, qui est utilisé par une société indienne, tourienne, qui abuse et qui... C'est pas bon. Ils auraient pu faire des forages pour pouvoir faire une plus-value. Ce sont ces choses-là que nous, entrepreneurs, nous critiquons.
Vous êtes vous-même entrepreneur, donc vous percevez en ce moment les Chinois et les Indiens comme de vrais concurrents.
Ce sont des vrais concurrents. Ouais. Parce qu'en réalité, je vous donne l'exemple de la zone dont je vous parle, à Bondoukou, dans la zone frontalière du Ghana et du Burkina. Le barrage sert à la riziculture.
Oui.
Et puis ensuite, à la pêche. Quand on vient prendre ça pour laver du manganèse, qu'il n'y a même pas une industrie qui fait une première transformation en utilisant des ingénieurs ivoiriens,
oui.
Seulement la main d'œuvre des femmes pauvres pour venir laver les choses qui sont nos mamans et tout.
Oui.
Comment on peut lutter contre la pauvreté?
Effectivement.
Comment on peut lutter contre l'immigration des jeunes vers les...